Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob un nouveau livre passionnant. La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer. Ce livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu, c'est étayé par une bibliographie importante, une belle cartographie, expertise géopolitique qui est la vôtre, et le sens de l'éthique dans le texte. Alors, quelles sont les raisons d'espérer que vous avancez ?
Ah ben, il y en a 7 hein, qui sont autant de chapitres de mon modeste ouvrage. Et alors je ne vais pas tout vous les donner, mais il y en a au moins 2 qui me tiennent à cœur. La première, c'est que le choc des civilisations n'existe pas. C'est un concept absolument inepte. C'est celui de l'un de mes confrères américains dans les années 90 et 2000. Et malheureusement, je constate que ce concept de choc des civilisations demeure malheureusement trop ancré dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains. Les guerres, les conflits ne se font pas pour des raisons prétendument civilisationnelles. Le concept même d'ailleurs, la réalité même de la civilisation est extrêmement difficile à établir. On connaît mal ses contours et en réalité, empiriquement, ça, l'expérience des temps longs nous démontre que les guerres peuvent avoir pour moteur des bisbilles économiques, territoriales, de l'ego d'un certain nombre de chefs, notamment lorsqu'ils sont dictateurs, des questions territoriales frontalières, bien évidemment, parfois des questions énergétiques, mais quasi jamais des raisons pseudo-civilisationnelles. Et une deuxième raison, contrairement à ce que croient beaucoup de gens paresseux, deuxième élément, c'est que le syndrome de l'été 14 n'existe pas. L'été 14, ça renvoie de très mauvais souvenirs, notamment pour la France. C'est cette cascade de déclarations de guerre au cours de ce funeste été lié à l'entrelac d'alliances militaires en plus ou moins 2 blocs en Europe au début du XXe siècle. Or, cet entrelac n'existe pas aujourd'hui. En fait, sorti de l'OTAN, dont vous savez à quel point l'alliance est menacée par Trump, sorti de l'OTAN, il n'y a aucune, je dis bien aucune alliance militaire multilatérale sérieuse sur la planète. Et donc, de ce point de vue-là, lorsqu'on évoque l'Ukraine, lorsqu'on évoque le Proche-Orient, lorsqu'on évoque le Soudan, l'Afrique des Grands Lacs, même la Birmanie, on ne se trouve absolument pas dans ce schéma qui risquerait effectivement de provoquer une guerre mondiale et en réalité à peine régionale. Voilà. Donc ça, ce sont 2 parmi les 7 raisons qui me permettent très objectivement, hein, très pragmatiquement, très géopolitiquement, d'espérer qu'il n'y aura pas de guerre mondiale.
Alors, outre les conflits que nous connaissons, massacres de masse à l'est de l'Afrique, rivalité économique et technologique exacerbée entre la Chine et les États-Unis, la guerre en Ukraine dont vous parlez et aussi au Proche-Orient, mais il y a des périls majeurs dont vous faites état, c'est Taïwan, le Cachemire et les crises climato-migratoires. Ce sont des choses que l'on ne peut pas prévoir, que l'on ne peut pas contrer de façon rationnelle.
Alors, ce sont des crises authentiques, mais d'une part, elles ne permettent pas non plus, heureusement d'ailleurs, me semble-t-il, de craindre un basculement dans la guerre mondiale. Ce sont des crises qui finalement sont relativement localisées. Hein, vous venez de rappeler, de mentionner à juste titre le Proche-Orient. Bon, écoutez, moi je constate qu'en dépit d'un nombre très important d'éruptions, on va dire ça comme ça, de violences depuis les années 40, 50, 60, 70, jamais les grandes puissances, jamais a fortiori des petites ou des moyennes puissances ailleurs sur la planète, n'ont engagé réellement des forces redoutables jusqu'à risquer une guerre mondiale. Alors, il y a un semi-contre-exemple, C'est la guerre du Kippour de 73, au terme de laquelle les Américains avaient déclenché la préalerte nucléaire pendant 24 heures. Bon, ok. Mais sauf qu'en réalité, les Soviétiques n'ont jamais envoyé de soldats sur le terrain, et d'ailleurs pas davantage les Américains. Et depuis, on a une implication parfois diplomatique, mais certainement pas militaire. Vous voyez, et au fond, je vais vous dire, même le conflit ukrainien est un conflit, ou russo-ukrainien, est un conflit qui, de toute façon, quoi qu'il arrive dorénavant, aura été local. C'est un conflit local. C'est pas parce qu'on en parle à travers toute la planète, et notamment en Europe occidentale, pour des raisons géographiques évidentes, que c'est un conflit mondial. Ce n'est pas un conflit mondial. C'est un conflit très localisé. Et je reviens à ce que je vous disais il y a un instant. L'Ukraine n'a aucun allié militaire, et on l'a bien vu hein, depuis 3 ans, et pour cause. Et la Russie n'a pas réellement d'allié militaire. Pour l'instant, on est dans une montée de tension diplomatique, c'est vrai, c'est authentique, mais rien sur le plan économique et militaire permet aujourd'hui de garantir, et heureusement d'ailleurs, qu'il y aura un jour une véritable guerre.
Alors penchons-nous, s'il vous plaît, sur ce qui est arrivé le 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas contre Israël à l'encontre de civils en majorité et de militaires israéliens étrangers. Le 6 octobre, l'état des lieux, c'était que, le 6 octobre, à la veille du 7, Israël est considéré militairement comme inexpugnable, doté non officiellement de l'arme atomique. C'est aussi la deuxième aviation de combat après les États-Unis, mais avec des pilotes aussi performants que les pilotes américains. Division blindée garnie de puissants chars d'assaut, Merkava. Merkava qui est un mot hébreu, vous nous éclairerez ce que c'est. C'est le char céleste. Équipé donc de forces terrestres surentraînées, motivées et d'un renseignement militaire légendaire. Ça, c'est en face à la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas islamiste depuis son putsch de juin 2007 contre l'autorité palestinienne. Il y a aussi cet ensemble de clôtures et de murs équipés de technologies les plus avancées, caméras, capteurs, ayant coûté plus $1 milliard. Donc ça, c'est l'état des lieux. Et pourtant, rien de tout cela n'empêchera une horde de quelques milliers d'hommes armés d'attaquer plusieurs bases de Tsahal et de se livrer au pire massacre à l'encontre des Juifs depuis 1945. Alors voilà un exemple, je veux parler de situation atypique que l'on ne peut pas contrer finalement.
Ce que vous venez de brosser comme tableau est parfaitement juste. On a affaire à une situation, un colosse achilléen, lorsqu'on parle d'Israël du 6 octobre 2023. Mais ce serait un Achille qui par ailleurs aurait un cerveau hypertrophié, qui serait doté d'armures et d'armes bien plus puissantes encore et d'une force bien plus puissante encore que l'Achille de l'Iliade, mais qui marcherait en tongs. Et qui par conséquent, méprisant le serpent ou méprisant le petit scorpion, aurait décidé de ne pas se chausser ou de ne pas se botter. Et pourquoi je vous dis ça? Et du coup, Israël, cet Achille, inexpugnable, et je prends votre adjectif qui est parfaitement exact, et d'ailleurs Israël est en train de se renforcer considérablement sur le plan militaire depuis justement le 7 octobre, Israël aurait tellement méprisé la menace sur son talon d'Achille, disons, pour filer la métaphore, du Hamas, qu'il aurait décidé de ne pas tenir compte de cette menace. Et vous voyez, l'erreur sempiternelle qui est faite depuis peut-être les premières cités sumériennes par des États et des gouvernements, dont le gouvernement israélien et l'état-major israélien le 5 octobre 1973, avec un Moshe Dayan triomphant, crânant en quelque sorte, hein, désinvolte à certains égards, mais également le gouvernement et une grande partie de l'état-major le 6 octobre 2023, ça procède du même phénomène. Hein. Ça porte un nom, c'est le mépris. C'est le mépris de l'adversaire, c'est le mépris de l'ennemi. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Or, c'est exactement ce qui a été fait. Et qui suis-je pour le dire? À quelqu'un qui lit les rapports les uns après les autres, des renseignements, mais également de l'armée israélienne. C'est quelqu'un qui lit, comme vous d'ailleurs, les sondages quotidiens, hebdomadaires, des mensuels, publié en Israël depuis le 7 octobre, tout indique que le gouvernement israélien, et plus particulièrement le chef du gouvernement israélien, qui était quand même là depuis 2009 quand même, hein, et je passe 96-99, et qui est revenu au pouvoir en 2009, tout indique que Netanyahou a tellement méprisé, a tellement sous-estimé cette menace, qu'il n'a pas cru bon de devoir accorder suffisamment de missions, de personnel, de budget, pour obtenir des renseignements du Hamas. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui a fait la MIT, hein, c'est quelqu'un assez intelligent et qui est passionné d'économie et de technologie. Donc il considérait que cette fameuse barrière que vous avez citée avec raison, qui avait coûté plus d'un milliard de dollars, était inexpugnable. Maintenant, je conclue sur votre excellente question. Le talon a été mordu au sang. De continuer à filer cette métaphore, Israël pense la plaie. J'ose espérer que les Israéliens, dans 50 ans et d'ici 50 ans, seront plus malins et cesseront de mésestimer, assez régulièrement d'ailleurs, hein, leurs adversaires, quel que soit leur statut et leur nature. Mais l'État d'Israël lui-même, le Achille, le colosse qu'on évoquait il y a un instant, il est, je vous le disais, militairement plus puissant encore. D'abord fort de l'expérience, bien évidemment, mais plus puissant encore parce que on a bien vu que aucun État ne venait soutenir, c'est même le moins qu'on puisse dire, les barbares de Hamas, aucun, y compris les Arabes. Et par ailleurs, Trump étant revenu au pouvoir aux États-Unis, les États-Unis sont plus que jamais derrière Israël et avec une force qui va sans aucun doute s'exprimer bientôt sur l'Iran. J'ai toujours considéré que les Israéliens et les Palestiniens ne devaient pas vivre dans un État binational, parce qu'en réalité, l'expérience prouve que lorsque vous avez affaire à deux principales communautés, deux grands collectifs, pour faire très court, même si chacun est très mosaïque, enfin, en tout cas, deux grands collectifs qui ne souhaitent pas vivre sous les mêmes lois politiques, religieuses, éventuellement sous les mêmes modes traditionnels, vestimentaires, gastronomiques, linguistiques, que sais-je encore, eh bien, la frontière est quand même une invention idéale. Et moi, je suis un vrai fan de la frontière comme géopolitologue. Je n'ai pas dit du front, j'ai dit de la frontière. La frontière n'a pas mécaniquement vocation à devenir un front. Je considère que une entité palestinienne doit ressembler à une autonomie très large ou un État totalement démilitarisé, si vous préférez. Bon. C'est extrêmement difficile à faire. C'est inimaginable que ça puisse se faire avec le Hamas. C'est absolument hors de question. De toute façon, ça l'est même pour les Arabes et ça l'est même pour la gauche israélienne. Donc là, la question ne se pose pas. L'autorité palestinienne, je ne sais franchement pas si elle souhaite réellement accéder au statut d'État, vu la passivité politique absolument abyssale de Mahmoud Abbas depuis 2005 maintenant. Je commence sincèrement à en douter. Donc je ne sais pas si c'est faisable. Mais ma question est la suivante. Face à des gens qui sont sceptiques sur cette autonomie large des Palestiniens ou des États démilitarisés, appelez ça comme vous voulez. La question est la suivante. Quoi d'autre? Quelle alternative? Lorsque je pose la question, on ne me répond pas. Et je répète que l'État binational, c'est tout sauf une bonne solution. C'est la meilleure voie vers la guerre civile. Donc ça, je ne la conçois pas et de toute façon, je pense que personne n'en veut sur le terrain. Alors si ce n'est pas un État binational, si ce n'est pas Israël aux côtés d'une autorité, disons, autonome et démilitarisée palestinienne, c'est quoi alors? On ne me répond pas. Donc je reste quand même malgré tout intéressé par une solution qui verrait l'absence de danger pour Israël, parce que je le répète, il faut que cette entité palestinienne soit totalement démilitarisée, sous supervision à la fois, quand on dit international, il faut que ce soit un international extrêmement sérieux. On a vu à plusieurs reprises que les casques bleus du Sud-Liban ne disposaient pas de prérogatives suffisamment larges pour surveiller le Hezbollah, c'est même le moins qu'on puisse dire. Bon. Donc, sous une véritable supervision, avec évidemment maintien de la sécurité aux frontières, mais pour le reste, une vraie autonomie pour les Palestiniens. Parce que d'abord, ils ont une vraie conscience nationale, c'est comme ça, hein, ça plaît ou pas aux Israéliens, mais c'est comme ça. Et d'une part, et d'autre part, parce que, encore une fois, les autres solutions, à mon humble avis, hein, ne sont pas crédibles.
Alors, la voix de la raison, la voix de l'humanisme souffle. Dissuasion, négociation, ou alors, puisque je cite la citation que vous mettez en exergue au début de votre livre de Winston Churchill, la peur est une réaction, le courage est une décision. Est-ce qu'il faut faire la guerre et qu'est-ce qu'une guerre juste?
Oh là, question très philosophique. Vous avez 4 heures, je ramasse les copies. ça, alors là, chère madame, mais gloire à votre question. Mais si vous voulez, je vais avoir du mal à vous répondre en quelques mots. Moi, je pense que, d'abord, la paix et l'état collectif, certainement le plus précieux, c'est à la fois un état, un contexte, un phénomène, un concept, appelez ça comme vous voulez, une réalité de vie extraordinairement précieuse. Mais je pense que là-dessus, on sera d'accord. Le deuxième point, c'est comment y parvenir. Il faut y parvenir par la dissuasion. Je pense que le pacifisme est l'ennemi suprême de la paix. Je pense que les pacifistes, qui sont sans doute souvent des gens de très bonne volonté, de très bonne foi, se trompent lourdement quant à la nature humaine, ou plus exactement, parce que je ne suis pas anthropologue, plus exactement quant à la volonté d'un certain nombre de gens, de dictateurs notamment, n'entretenant pas du tout des valeurs aussi humanistes que les leurs. Et alors à ce moment-là, quand vous êtes faible et quand vous cultivez votre faiblesse, notamment militaire, eh bien vous aiguisez l'appétit impérialiste, voire belligène, d'un certain nombre de vos futurs ennemis. Et ça, c'est le deuxième point. Troisième point, qui découle du deuxième, il y a donc des guerres justes. Il y a donc des guerres justes. Mais alors attention, il faut se méfier de ce concept, parce que qui est en droit et sur la base de quelle valeur, de quelle foi, de quelle gloire passée, de quelle probité incontestable peut établir que telle ou telle guerre sera juste ou ne le sera pas. Ce qui est certain, puisque vous me parlez notamment du Proche-Orient, c'est que Israël a un droit suprême, absolu, incontestable, reconnu d'ailleurs par les Nations Unies, à non seulement l'existence, bien évidemment, mais aussi la sécurité. Et de ce point de vue-là, lorsque Israël est attaqué sur son territoire, et plus particulièrement encore, lorsque des civils sont touchés, et plus particulièrement encore, lorsqu'on a affaire à un véritable massacre, Israël, évidemment, est en droit de réagir. Je rappelle simplement que la Charte des Nations Unies reconnaît dans son article 51 du chapitre 7 le droit à la légitime défense. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait évident et important à rappeler.
Alors, vous parlez de dissuasion, c'est une dernière toute petite question. C'est un mot noble, téméraire. Est-ce qu'il s'agit d'intimider, de faire front, en tout cas d'affronter, quitte à périr finalement?
Ah, alors ça c'est en aval. En amont, la dissuasion doit permettre d'éviter que le sang ne coule. C'est ça qui est très fort, vous comprenez. Si on dispose de ce que j'appelle en géopolitique une crédibilité dissuasive, eh bien, on contraint l'autre, l'adversaire potentiel, l'ennemi potentiel, celui qui souhaiterait bien vous tromper, ou vous soumettre, ou vous réduire en esclavage, ou vous tuer, ça va le convaincre que de tenter de le faire lui coûtera beaucoup plus cher que de ne pas tenter de le faire. Au fond, c'est ça la dissuasion. Et lorsque vous avez correctement dissuadé par la préparation, pas seulement militaire, mais entre autres militaire, de votre État, si vous êtes chef d'État, gouvernement, si vous vous êtes suffisamment bien préparé, si vous avez montré suffisamment et assez efficacement vos muscles, pour filer la métaphore de gamin dans une cour de récréation, eh bien l'autre n'entame même pas la guerre. Il ne s'agit pas de la faire. Parce que si l'autre entame la guerre, ça veut dire que vous n'avez pas été suffisamment dissuasif en amont. Voyez-vous?
Oui.
Donc
oui.
C'est pour ça que moi je suis de ceux qui considèrent que il faut bien évidemment, et ce sera mon dernier mot, puisqu'on parle beaucoup et pour cause en ce moment, évidemment, de l'Europe, il faut aller vers l'Europe puissance. Il faut absolument que l'Europe se convertisse à ce qu'elle est déjà et qu'elle restera, et qu'il faut qu'elle reste, bien évidemment, c'est-à-dire une puissance économique, hein, il faut qu'elle adopte, qu'elle se convertisse à la puissance globale, et qui dit puissance globale, dit puissance à la fois économique et politique, et qui dit politique, dit aussi militaire.
Je vous remercie infiniment, monsieur.
Merci à vous.
C'est moi. Au revoir.
Allez-y, au revoir.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.
Oh,